Aujourd'hui, c'est special.
Special. Interview.
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 Interview sérieuse.
Sérieuse et special.
Interview qui fait mal avec des femmes stylées.
Ouais, ouais, ouais.
Un, deux, trois. Nous sommes donc à Die, en ce jour du 25 novembre. Vous écoutez Air Diwa et je suis en compagnie de Lynn et Françoise de l'association des Chouettes. Nous avons la chance de les recevoir ici. Elles vont pouvoir, vous allez pouvoir nous expliquer quelles sont les violences dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Et c'est en comprenant comment les violences sont multiples et plurielles que nous allons pouvoir appréhender le concept de l'emprise. C'est Lynn qui nous en parlera en détail. Et comprendre donc de la sorte comment un individu, petit à petit, construit sa domination sur quelqu'un d'autre, et en l'occurrence sur les femmes. Et du coup, pour commencer, on t'écoute toi, Françoise, qui va nous détailler les différents types de violences, c'est ça ?
C'est ça, parce qu'en fait, les femmes n'en ont pas toujours conscience de subir des violences. Elles sont tellement habituées, et c'est un continuum tout au long de leur vie. D'autant plus que, dans le langage courant, on continue à parler de femmes battues. Et c'est une expression qu'on chouette. On n'en utilise jamais, ni du reste au niveau national et dans les mouvements féministes, parce que les violences les plus graves, selon les femmes elles-mêmes, ce sont les violences psychologiques, qui ne laissent pas de traces physiques. Donc il n'y a pas d'échelle, mais il faut sortir de cet imaginaire collectif centré sur les seules violences physiques. Donc si j'énumère en général, il y a les violences morales, verbales, psychologiques, on peut grosso modo ranger ensemble, on va y revenir, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques et administratives, les violences qui s'exercent, les violences cybernétiques via les écrans, qui sont énormes en quantité et en dégâts occasionnés. Donc ces fameuses violences psychologiques et verbales, elles accompagnent toutes les autres. Il est quasiment... on ne voit jamais, donc là je m'exprime à partir de mon expérience d'accompagnatrice de femmes victimes de violences, mais aussi au travers de toutes les formations que j'ai suivies, on voit, il n'y a jamais de violences sexuelles ou physiques qui ne soient pas accompagnées, précédées et suivies de violences verbales ou psychologiques. Et c'est avec ce type de violence que le partenaire, Lynn nous l'expliquera ensuite, prendre l'emprise. Ça peut être difficile à reconnaître ce type de violence parce que ça peut être subtil. Par exemple, le partenaire, donc là on parle du petit copain qu'on habite avec lui ou pas, ou de l'époux, du concubin, peu importe, ou du partenaire homosexuel. Ça peut être subtil, ça peut être tout simplement le silence, boudé. C'est une forme de violence quand c'est systématique, quand ça dure. L'intimidation par les regards. Parmi les violences psychologiques, il y a aussi les humiliations qui passent inaperçues parce que la femme les a intégrées et n'en a plus conscience, bien que ces humiliations dictent son comportement. Et il y a la surveillance, il y a les insultes. Donc ces violences psychologiques, elles ne sont jamais banales. On peut les observer dans des soirées entre amis, des soirées entre couples, au café. Et la femme en vient à les intérioriser. C'est-à-dire qu'elle finit par... Oui, elle croit qu'elle est bonne à rien, elle croit qu'elle trouverait pas mieux que le monsieur. Parce que monsieur lui dit, par exemple, « T'as de la chance avec moi. » Ou elle pense aussi qu'elle est responsable de ses énervements, parce qu'il lui dit ça, hein, violence verbale. Et ce type de violence la prépare, entre guillemets, à accepter toutes les autres. Et je crois que dans cette description de toutes les formes de violence, ce qu'il faut retenir, c'est les violences les plus dangereuses, les féminicides, elles sont rendues possibles par les violences qui passent le plus inaperçues et qui assoient la domination, très sûrement. Alors, des exemples de violences. Par exemple, remettre systématiquement en question les compétences de l'autre en critiquant. Alors, vous connaissez le steak trop grillé, l'éducation des enfants. Ça peut être aussi prendre toutes les décisions au sein du couple. Les décisions, entre guillemets, considérées importantes parce que le compagnon ou le conjoint considère que sa conjointe en est incapable. Se moquer de la femme en privé ou en public. Elle est trop grosse, elle est moche. C'est la surveiller. La surveiller, y compris au travail. Et ça, c'est très facile de le faire avec son téléphone cellulaire, via les réseaux sociaux, ou avec les applications, justement, qui permettent de savoir à tout moment, à son insu, où elle est. À son insu ou avec son accord. Parce que les violences psychologiques peuvent revêtir le masque de l'amour. Hein ? Sous couvert d'amour, monsieur peut se montrer jaloux. Mais bien sûr, c'est parce qu'il l'aime. Je dis ça entre guillemets. Et donc, il se montre très possessif. Ça, c'est une forme de violence. Voilà. Faire croire à la folie de la femme, au fait qu'elle va vraiment pas bien, que c'est elle qui va pas bien, et le répéter. Autre violence psychologique, c'est limiter toutes les sorties de la femme, l'isoler, c'est-à-dire, et puis pour finir, lui interdire de sortir. Hormis le travail, ou alors l'obliger à travailler, ou lui interdire le travail. En tout cas, la contrôler. Critiquer l'entourage familial de la femme, de la jeune fille, qui contribue à l'isoler, et qui contribue à la priver des soutiens qu'elle aurait. Lire, être intrusif, et lire ses courriels, ouvrir ses messageries. Menacer de partager des contenus intimes, des photos particulièrement, mais enfin de l'information personnelle ou des photos d'elle sur les médias sociaux. Laisser croire, ça c'est vraiment que si elle n'agissait pas comme elle agit, mais il ne serait pas violent. Le problème c'est elle. Voilà, donc il y a des micro-agressions et puis il y a des violences psychologiques d'abord subtiles qui s'installent comme ça, et puis des brimades répétées. Et tout cela crée un climat anxiogène. Donc votre copine, finalement, vous ne pouvez jamais la voir. Ou elle évite certains sujets. Ou elle dit qu'elle vient et elle annule tous les rendez-vous. Clac, ça peut être un déclic pour vous poser des questions en tant que copine ou copain. Sur les violences physiques, je vais pas les décrire, je trouve pas ça passionnant, mais je voudrais citer la psychiatre Marie-France Irigoyen qui a dit et qui a écrit « Un homme qui frappe sa femme n'a pas pour but de lui mettre un œil au beurre noir ou de lui casser une côte. Son but, c'est de la soumettre et de la rendre docile. » Et ça marche. C'est-à-dire que, bien avant les cas les plus graves de féminicide, l'homme peut s'en prendre physiquement à la femme, mais aussi aux animaux domestiques. C'est toujours très mauvais signe s'il s'en prend aux chats, aux oiseaux, aux poissons. Il peut s'en prendre aux biens matériels, et ou il peut menacer de le faire. Dans le droit pénal, les agressions ou les tentatives d'agression sont punies de la même manière. Les violences sexistes, c'est le harcèlement, donc le fait d'imposer de façon le plus souvent répétée, parfois une seule fois suffit dans le code pénal, mais de façon répétée à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui sont dégradantes et humiliantes. C'est pas besoin d'avoir des relations hiérarchiques au travail. Donc je crois que les femmes connaissent énormément les violences sexistes dans la rue. Et le thème, violence sexiste. Les violences sexuelles, c'est plus précis. Une violence sexuelle, c'est c'est une agression sexuelle. Et la loi, donc c'est tout ce qui consiste à porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la femme dans 5 parties du corps. Donc comme on parle d'agression, on ne parle pas de viol. L'agression, c'est contact, tout contact avec les fesses, le sexe, les seins, la bouche, entre les cuisses, par l'effet de surprise, par la menace, par la contrainte ou par la violence. Donc ça, c'est dans la loi. Dans les faits, ces violences, elles interviennent sur les femmes à tout âge, que les femmes aient de 2 semaines à 90 ans ou plus, et dans toutes les circonstances, dans 90% des cas, elles sont commises par quelqu'un que la femme connaît. C'est dans le cadre de ses relations amoureuses ou par des professionnels. C'est en milieu scolaire, c'est au travail sportif, c'est dans les clubs, clubs d'activités culturelles, c'est dans les contextes thérapeutiques, les médecins, les gynécos, les kinés. Le mot attouchement, tout comme le mot femme battue, le mot attouchement, on pourrait le barrer de notre vocabulaire. En fait, on parle attouchement, il faudrait remplacer. Parce qu'attoucher, toucher, c'est gentil, c'est mignon, c'est la caresse, pas du tout. Attouchement, c'est une agression sexuelle. Tout comme le mot abus. Là, c'est l'association nationale Nous Toutes qui alerte, qui nous alerte de façon très judicieuse. Les abus sexuels, ce sont des viols. Hein. La plupart du temps, ce sont des viols. C'est-à-dire qu'il y a pénétration d'une des cinq parties, enfin des parties que j'ai énumérées avant. Donc, c'est vraiment important. Nommer les violences, c'est le premier pas.
Comment est-ce que toi ou est-ce que vous appelleriez un rapport sexuel du coup qui était peut-être consenti au départ et qui ne l'est plus ou qui vire vers une forme qui n'est plus consentie dans une situation où peut-être la personne qui est en train de subir ce rapport-là n'arrive pas à dire non ou en tout cas à stopper. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce que on peut l'appeler viol aussi?
Alors, si tu parles, si ça inclut les préliminaires à l'acte sexuel, la culture classique, c'est celle de l'homme qui, entre guillemets, force la femme et la femme finit par se laisser faire. Donc, elle consent dans le sens où elle cède. Elle cède malgré elle. Se répand timidement auprès des hommes aussi l'idée qu'à tout moment de la relation sexuelle, donc qu'il y ait pénétration ou pas, mais en tout cas avant la pénétration, les partenaires s'assurent mutuellement qu'il y a accord. Donc aux États-Unis, il est demandé de plus en plus que la question soit posée, ça te va? Est-ce que je peux te toucher comme ça? Est-ce que tu es d'accord pour te retourner? Est-ce que ceci, cela? On n'est pas anglo-saxon, on n'en est pas là en France, mais ceci dit, pour répondre à ta question, à partir du moment où la femme a manifesté qu'elle ne le souhaitait pas, les études menées prouvent que l'homme sait très bien, dès le moment de la drague, il sait si la femme a envie ou pas. Mais il continue son chemin, il force, il oblige, il insiste, il est relou. Donc, est-ce qu'une femme qui changerait d'avis, qui voudrait arrêter une relation sexuelle et qui ne peut plus le faire, oui, il s'agit d'un viol. L'inceste, c'est à part. Ça implique une violence commise par un adulte qui a un lien de responsabilité, une figure parentale, donc bien sûr un des deux parents, le père ou la mère, les cousins, le frère, mais aussi le grand-parent, grand-père, mais l'oncle, mais ça peut être aussi un membre de la famille reconstituée, le beau-père, ça peut être le mari de la nounou. Donc on note qu'on parle beaucoup des femmes victimes de violences, on connaît les chiffres, c'est pas là aujourd'hui qu'on parle de chiffres, mais on parle beaucoup moins des auteurs de violences. Tout comme pour le harcèlement en milieu scolaire, on parle sans arrêt des victimes. On dit aux parents, on conseille aux parents de savoir reconnaître quand leur enfant est victime de harcèlement. On dit jamais aux parents de reconnaître quand leur enfant est harceleur. Donc nous, les chouettes, voilà, on est confrontés, on est amenés à voilà avec un nombre certain d'agresseurs et voilà, dans les violences incestueuses, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille au sens large. Et bon, je ne vais pas non plus les détailler, je sais pas, mais il faut savoir que rentre dedans le voyeurisme, que les femmes n'identifient pas toujours comme une violence réprimée par la loi, l'exhibitionnisme, bien sûr, et les mutilations génitales dans certaines... par excision, pour des raisons culturelles ou pseudo-religieuses. Voilà. Et puis, bien sûr, les violences sexuelles les plus graves, c'est les viols, avec une forte présence de l'alcool ou d'autres types de substances. C'est intéressant de le savoir. Drogue, alcool, parce que ça rend les femmes et les jeunes filles beaucoup plus vulnérable le fait d'avoir consommé de l'alcool ou d'avoir pris des drogues. Alors, et ça rend les hommes aussi plus propices à être violents. Donc, aussi bien pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes, l'alcool, c'est un désinhibiteur et ça facilite les passages à l'acte. Je ne suis pas en train de dire que les jeunes filles ne devraient pas boire, ou ni les femmes, mais qu'elles soient conscientes qu'ensuite, l'agression est facilitée. Donc, il faut s'organiser si on a décidé de boire. Les violences économiques, c'est, par exemple, priver la femme ou la jeune fille d'argent, ou alors donner à la femme trop peu d'argent pour qu'elle subvienne aux besoins du foyer. Donc c'est l'empêcher de répondre à ses besoins. C'est contrôler les finances du couple, l'accès au compte, à distance, les chéquiers. Je l'ai déjà dit, empêcher de travailler ou forcer à quitter son emploi. Ça, on l'observe. C'est aussi dépenser tout l'argent du couple, endetter le couple pour des dépenses décidées tout seul par l'homme. Réaliser des opérations bancaires importantes sans jamais consulter sa conjointe, ou bien à chaque fois qu'elle dépense, exiger un justificatif de la femme. Voilà. Et les entreprises ont un grand rôle à jouer là, du reste, parce que c'est à la fois le lieu où s'exerce énormément de violence, l'entreprise, mais c'est aussi quand les entreprises ont compris le rôle qu'elles peuvent jouer, elles peuvent tenir les femmes victimes de violences et repérées comme telles à l'écart des charrettes de licenciement. Elles peuvent un petit peu sanctuariser les emplois, les aménagements de temps au moment des divorces, pour que le lieu de travail devienne un lieu de sécurité et d'autonomie financière. Et puis, voilà, c'est même nous, on préconise que l'emploi et la carrière des femmes victimes de violences soient sécurisées au travail. Et en termes d'aménagement d'horaire, aménagement de poste, des congés payés. Donc, il y en a qui jouent le jeu dans le DIWA, hein, on a accompagné des femmes comme ça. Possibilité de mobilité pour aller exercer dans la même boîte ailleurs, pour fuir. Bon, des choses comme ça. Et chez la femme sans papier ou chez la femme avec un titre de séjour provisoire, eh bien, la confiscation des papiers, on l'observe aussi ici, aussi, ça se fait hein, chez nous, ça se fait partout. Donc on lui supprime l'argent, on lui supprime son téléphone portable et on lui supprime ses papiers, comme ça c'est clair.
La voiture.
Et malgré tout,
l'accès à la voiture,
quand elles en ont, oui. Et malgré tout, elles arrivent à, par exemple, à nous joindre ou à joindre d'autres associations. Les cyberviolences. Voilà, nous, à nos âges, nous, on est des, entre guillemets, des vieilles chouettes. Hein. Donc, on n'est pas nés avec le téléphone portable. Mais beaucoup de les générations plus jeunes, si. Et il y a eu une recherche-action très intéressante du centre Hubertine Auclair à Paris, qui a, voilà, grâce aux applications sur les téléphones, eh bien, l'agresseur peut savoir, il peut installer à distance une application, ça passe incognito, ou alors, par exemple, il faut cliquer sur une photo pour avoir accès à quelque chose, et en cliquant, vous installez cette application, qui est vendue pour les parents qui veulent savoir où sont leurs enfants, mais qui est vendue aussi, c'est ça qui est scandaleux, avec des images de violence d'hommes sur les femmes, donc ça se fait aujourd'hui, et donc avec ces applications, ben voilà, papa, c'est toujours où est maman. Papa apparaît vraiment très puissant aux yeux des enfants. Donc, il peut également mettre des trackers sous la voiture. Ça se fait très, très facilement. Il sait. Donc, il y a des femmes qui ripostent, même en étant traquées comme ça, qui, par exemple, ont l'habitude d'avoir des bouchons en rentrant du travail et qui s'arrêtent quand il n'y a pas de bouchons pour bénéficier d'un quart d'heure. Ça va être leur respiration. Et ça n'apparaîtra pas. Dans le traquage à distance, dans le tracking à distance avec le GPS. Les violences, les cyberviolences, bien sûr, c'est assez connu maintenant, c'est le cyberharcèlement tant pratiqué par les politiques, par les jeunes, par tout le monde. Donc l'envoi de messages menaçants en continu ou de coups de fil. Les logiciels espions, je viens d'en parler, les suivis des trajets avec le GPS. Et puis il y a toutes les violences exercées via les enfants. À travers le téléphone, l'homme prétend vouloir savoir où sont les enfants, mais en fait, il surveille la compagne et il interroge les enfants. La personne violente, l'homme peut voir les messages qu'échange son ex-compagne, par exemple, parce que toute la violence dont on a parlé peuvent s'exercer, une grande partie d'entre elles, en post-conjugal après la séparation. Et ces logiciels espions qui s'installent permettent de donne accès à la messagerie de la femme. L'homme sait vraiment tout. Et donc la parade, c'est vraiment de changer de matériel ou de formater son téléphone, de tout effacer. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce domaine. Hein. On a été amené aussi à accompagner des femmes comme ça. Voilà, donc toutes ces violences variées ne sont pas subies en même temps par une femme. Et comme je le dis souvent, elles n'en ont pas conscience. Méline, tu vas nous expliquer cette chose contre-intuitive. La femme subit des violences, par exemple chez elle, ou par son petit ami, et pourtant elle reste. Mmh.
Alors effectivement, une fois qu'on a parlé des différentes formes de violence, on peut parler de la situation d'emprise. Parce qu'on voit bien, après ce qu'a expliqué Françoise, que c'est un ensemble de situations qui font, et ça répond un petit peu à la question que tu as posée, même dans un cadre très 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 intime que tu as posée, Alice, on voit bien que la femme, elle est prise dans un système où dire non, c'est pas quelque chose qui est évident et qui se pose comme un oui, un non qui s'oppose à un oui, par exemple, ou un oui qui s'oppose à un non. Alors, pour répondre à la question pour aller plus loin dans la question de l'emprise, je vous propose deux définitions, déjà plutôt que des définitions, je dirais deux caractéristiques qui ont été proposées par les psychiatres et une autre, c'est par Muriel Salmona qui est psychiatre aussi, mais qui a sa propre caractérisation de l'emprise. Alors, définie en psychiatrie, c'est une relation de domination destinée à détruire l'estime de soi et la personnalité de l'autre. Et il y a une manipulation destinée à anéantir toute volonté de la victime et son intégrité. Donc, dans cette définition entre guillemets, vous voyez que je reprends des mots qu'a cité Françoise. Dans la deuxième définition, entre guillemets, définition, Muriel Salmona dit « c'est un processus de colonisation ». On peut dire aussi de soumission psychique par un conjoint ou un partenaire violent ayant pour conséquence d'annihiler toute volonté de la victime. Alors je dirai après ce qui permet d'en sortir. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous énumérer en quelque sorte, je ne sais pas si je les détaillerai beaucoup, mais se dégage du phénomène d'emprise, qui est donc, je le redis, une colonisation. J'étends un petit peu à chaque fois, je reprécise un petit peu plus. Cette colonisation, c'est un processus psychique et émotionnel qui, on l'a vu, hein, et se met en place suite à des violences répétées pour soumettre une victime. Donc alors, on parle vraiment de stratégie de l'agresseur dans l'emprise. Et il y a 5 étapes classiques et qu'on retrouve dans toutes les situations qui ont été étudiées par tous les corpus qui tournent autour de cette question des violences faites aux femmes, c'est-à-dire les psychiatres, les obstétriciens, les psychologues. Et donc, ces 5 étapes sont... Alors, le préalable, c'est bien sûr que l'agresseur, il va d'abord charmer la victime. Il a repéré quelqu'un qui est une proie pour lui qui sent qu'il va pas choisir n'importe qui. Il sent que ça va être une victime possible.
Parce qu'elle l'a déjà été, en général.
Voilà. Donc, il y a des signes extérieurs, si on peut dire, que même en tant que témoin, et d'ailleurs, Françoise y a fait un petit peu allusion tout à l'heure, on peut repérer des signes qui nous disent... Cette personne a l'air bien dans sa peau, apparemment. Enfin, elle a l'air d'assurer sa vie de tous les jours. Mais il y a des signes extérieurs qui nous font voir que c'est une victime. Et le prédateur, il le repère tout de suite. Alors, donc, après avoir bien charmé sa victime, l'avoir séduite, en lui disant qu'elle est la plus belle, qu'elle est la femme de sa vie, etc., en lui offrant des cadeaux, petit à petit... on va dire que le climat change. Parce que nous n'oublions pas, le prédateur, lui, il cherche à... Il va coloniser sa victime pour la soumettre. En fait, il va la transformer en objet quelque part, à son service. Alors, qu'est-ce qu'il fait après cette partie de séduction? La première étape, c'est qu'il isole sa victime, il la met sous sa dépendance. Et bien sûr, ça va commencer à créer une soumission. La deuxième étape, c'est l'étape de la dévalorisation. Ce que je disais tout à l'heure, il chosifie la personne. Il se moque, il l'humilie, il la critique. Ça, ça crée un climat de dévalorisation où peu à peu, la victime...
perd son estime d'elle-même.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle perd son estime d'elle-même et quelque part, elle coule de plus en plus dans ce rôle de victime. La troisième étape, c'est d'instaurer un climat de peur en se présentant comme tout puissant. C'est-à-dire que la personne, la victime, en face de cet homme, elle a l'impression qu'il est absolument tout puissant dans tous les domaines et donc qu'il a toujours raison, en fait.
C'est pour ça qu'on observe... Enfin, avoir peur, ça signe le fait qu'on subisse des violences. Donc, pour les femmes ou les hommes qui nous entendent, si jamais ils peuvent s'interroger sur leur relation, est-ce que j'ai peur? Et là, si la réponse est positive, ils peuvent se dire, bon, il y a un gros chantier devant moi.
Effectivement. Alors, la quatrième étape, la stratégie, donc, cette quatrième étape de la stratégie de l'agresseur, c'est d'inverser la culpabilité. C'est-à-dire que pour lui, c'est la victime qui a provoqué le passage à l'acte. Et le paradoxe dans cette situation, c'est que la victime finit par en être persuadée. Elle se dit « c'est de ma faute » et elle se sent coupable. Et là, le prédateur, l'agresseur, a réussi en quelque sorte sa stratégie. Et la cinquième étape... c'est qu'il assure son impunité autour de lui. Alors, il a des alliés et il manipule l'entourage pour que la victime, que l'entourage et les alliés pensent que c'est la victime, finalement, qui a tous les torts. Et pour ça, il assure son impunité, puisqu'autour de lui, tout le monde va dire « Ah, mais c'est un homme, il est charmant en société, il est très serviable, il rend des services, il est toujours content ». Oui, à l'extérieur. Et ça, c'est un champion de la façade à l'extérieur et d'une autre façade, Mr. Hyde et Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
En milieu rural, c'est important ce que tu viens de dire, Lynn, parce qu'on se connaît. Il n'y a pas l'anonymat des grandes villes. Et donc, les femmes sont beaucoup plus impressionnées par... elles projettent une puissance que l'homme peut jouer. Et elle le regarde d'en bas. Et elle le voit souvent puissant, et dans les faits, il n'est pas tant que ça.
J'aurais envie de questionner, de savoir en fait si ce profil-là d'homme violent, est-ce que c'est une approche qui est comment dire, un peu systémique, globale, ou est-ce que c'est presque pathologique? Est-ce que c'est de l'ordre du comportement psychique? Non,
ça dit tout. Ça relève du sexisme.
Oui.
Ça relève des habitudes prises en société. Ça veut dire que c'est l'exercice d'un pouvoir, tu vois. C'est vraiment culturel. Ça n'a rien de... C'est 3% seulement des hommes aux assises sont expertisés comme malades psychiatriques. Donc on a l'habitude de dire, mais il est complètement fou, mais c'est faux. C'est faux. C'est juste que la société jusque-là a cautionné, ferme les yeux, banalise toutes ces violences.
Je pose la question parce qu'en fait, quand on entend tout ce système-là d'emprise progressive, on a un peu l'impression qu'il y a une stratégie très consciente et que, en fait, c'est une stratégie émise par des personnes qui ont un espèce de vice en eux. Et du coup, on aurait tendance à imaginer que c'est des profils très particuliers et que le commun des mortels, des hommes qu'on croise dans la rue, n'est pas capable de ce genre de stratégie.
Je pense que Françoise a donné vraiment la réponse, c'est-à-dire que culturellement, on accepte le sexisme et même les hommes, entre eux, il y a ce rapport de domination, entre eux, il y a un rapport. Il doit y avoir un gagnant et un perdant. Il doit y avoir le chef. Et finalement, on retrouve cette structure, en somme, dans les relations entre un homme et une femme. Un homme qui a qui prend cette posture-là. Mais on ne peut pas dire que... Enfin, si, bien sûr qu'il peut y avoir des cas pathologiques, et il y en a. Mais c'est quand même un phénomène qui est dû à la culture du pays.
Et là, si tu veux, Lynn nous a présenté les cinq caractéristiques qui permettent à un homme d'asseoir son emprise. Mais dans les faits, tu les repères. Et nous, dans l'accompagnement, on aide une femme à repérer ça. Quand elle nous dit quelque chose, quand elle nous dit j'en ai marre parce qu'il ne me parle pas pendant des jours, ah oui, alors là on peut nommer, on nomme, c'est une façon de vous dévaloriser. Hein. Et, donc l'homme, il s'est pas mis à table avec une feuille en disant je vais faire ça, mais c'est d'une triste banalité. Hein. C'est répandu partout autour du monde, autour de la Terre.
Donc alors, comme on l'a vu, ces violences répétées avec un auteur et une victime, elles sont bien identifiées et elles s'installent dans la durée. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, il y a un terme que je voulais citer, qui revient souvent dans les études qui ont été faites, c'est que donc ce système, qui est un système de manipulation, il amène la victime dans un état de démantèlement psychologique. Ça, c'est une expression en particulier de Muriel Salmona, et je trouve qu'elle est très, très explicite et de la situation que vit, du coup, cette victime. Alors, après avoir énuméré ces étapes, on peut se poser la question, mais alors, quel est l'antidote à cette stratégie de l'agresseur ? Qu'est-ce que peut faire la victime pour s'en sortir, finalement ? Sachant qu'elle est, comme on l'a vu, elle est conditionnée, elle est dopée, elle est façonnée pour appartenir à l'agresseur. Donc déjà, on peut comprendre que le point de départ, c'est qu'elle prenne conscience de la posture dans laquelle elle est face à son agresseur. Voilà. Donc, si on reprend chaque point, chaque étape, là, ces cinq étapes, il y a d'abord... Avant de reprendre contact avec son réseau, ça va arriver, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience chez elle qui fasse qu'elle va comprendre ce mécanisme qui s'est mis en place. Elle va le comprendre et elle va repérer ce qui concerne l'agresseur, effectivement. Ah oui, je suis bien dans cette situation. Et elle va repérer ses propres comportements qui, effectivement, font qu'elle est rentrée dans ce système. Donc, on va dire que ça, c'est en amont. Et ensuite, donc, les étapes pour elle, pour se reconstruire, et donc les chouettes l'amènent à faire ce chemin-là, c'est qu'on l'invite à reprendre contact avec son propre réseau, retrouver sa famille, retrouver ses amis, voilà. Qu'elle sorte de cet isolement dans lequel l'avait mis le prédateur. Ensuite, la situation dans laquelle on l'invite à revenir, c'est qu'elle retrouve l'estime d'elle-même. Alors, après, on passe le relais à des psychologues. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas là comme psychologues, mais comme accompagnantes. On privilégie une écoute empathique. Dans notre association, on a une charte très précise de qu'est-ce que c'est l'accompagnement, car, bon, on l'a déjà dit dans d'autres interviews, mais peut-être... C'est important de le redire. On n'est pas là pour prendre la place des professionnels, qu'ils soient professionnels de santé ou professionnels sociaux ou professionnels du droit. Notre place à nous, c'est de l'écoute empathique et on donne des indications. Effectivement, on pointe ces fameuses étapes pour que la prise de conscience se fasse et qu'après, elle s'ancre dans des actions où la personne va pouvoir s'en sortir. Donc, après avoir reconstruit, enfin, c'est pas linéaire, hein, je dis 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas linéaire. On va l'aider à reconstruire l'estime d'elle-même et à démystifier, donc c'est une autre étape, on va l'amener à démystifier cette toute-puissance cette toute-puissance dans laquelle elle a placé son conjoint, son partenaire, qui est devenu, hélas, dans le temps, son agresseur. Et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas coupable. Parce que ça, c'est vraiment un des points presque les plus sidérants pour nous, c'est de repérer que quasiment toutes les personnes que l'on accompagne, elles arrivent en se sentant coupables.
Coupables et honteuses.
Et honteuses,
tout à
fait.
Je crois que c'est unique hein, dans l'histoire des vies humaines. Si que la victime se sente coupable, le voleur ne se sent pas coupable, forcément. Enfin, je veux dire, celui qui a subi un cambriolage ne se sent pas coupable. Du reste, il sera cru, généralement, en gendarmerie. Tandis que la femme, elle se sent coupable. Et en plus, on lui renvoie très souvent qu'on ne la croit pas.
Voilà, effectivement. Et donc, la cinquième étape, sachant que c'est les grandes étapes, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a des sous-étapes, qu'il n'y a pas de sous-étapes ou d'autres situations qui vont amener la victime à reprendre... finalement, à retrouver son identité, c'est tout ce qui concerne le fait de dénoncer, que ce soit en allant voir la gendarmerie ou en allant voir un avocat, un juge, dénoncer la situation de violence. Ça peut être de porter plainte, effectivement, de déposer une plainte, mais c'est aussi le fait d'en parler, c'est-à-dire de poser un acte par rapport à ce qu'elle a repéré maintenant comme étant une situation qui n'est pas normale, contrairement à ce que le regard... des autres, parfois, peut lui renvoyer. Non, ce n'est pas normal d'être violentée, d'être victime de violence. Et donc, on va l'amener à parler de la situation. Et après, comme je le disais tout à l'heure, on passera le relais à des psychologues ou d'autres intervenants de cette question. Les avocats, etc. Bon, moi, je propose une toute petite phrase très courte de Marie-France Irigoyenne pour ma propre conclusion, c'est pour juste repointer le contexte. Elle dit l'emprise, c'est toujours une question de pouvoir et de domination d'un agresseur sur une victime.
Et en conclusion, moi, nous vous invitons à assister demain, vendredi, à la projection du film Festen à 20h. Au cinéma, Le Pestel a dit. Festen, c'est de Thomas Vinterberg, mais ça reste encore très contemporain. Et c'est un beau film qui bouleverse. Et une médecin scolaire à la retraite et sexologue viendra nous discuter avec nous, et notamment de la manière de prévenir ces violences intrafamiliales, ces violences vécues par les enfants au sein des familles. Qui sont si nombreuses.
Je voudrais juste citer deux films qu'on vous invite vraiment à visionner pour vraiment comprendre ce mécanisme de l'emprise. C'est un film qui s'appelle « Jusqu'à la garde » qui est sorti en mars 2018. Et également « L'emprise » qui raconte ce qu'a vécu Alexandra Lange, qui a été victime de son agresseur pendant 15 ans et qui a abouti à un drame. Mais je vous laisse voir le film et c'est vraiment... Là, on comprend vraiment, vraiment le phénomène d'emprise. On le vit presque de l'intérieur. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ces deux films.
Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. J'aimerais peut-être vous demander un contact pour les auditeurs, auditrices qui aimeraient rentrer en contact avec vous.
Le numéro central de notre association, oui. 07 49 62 02 95. Et également notre mail.
Chouette avec un S, @autistiki.org. AUTISTICI.org.
Je voudrais rappeler qu'il y a un certain nombre d'interviews de l'association des chouettes qui se trouvent déjà sur le site de la radio rdwa.fr et qui sont disponibles pour toutes celles et ceux qui ont envie d'en entendre davantage et d'avoir plus d'informations. Merci beaucoup.
Merci.